Bienvenue sur danslescoulisses.com, bienvenue dans ce qu'on va appeler la taverne. Je m'appelle Carl K, avec moi, le chum DLC. Salut man!
Salut Carl, comment vas-tu?
Ça va bien toi?
Ça va bien, il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé de micro à micro ou sur les ondes radio ou les ondes web, parce que ceux qui ne savent pas, on faisait un topo tous les jeudis matin en Beauce, moi de chez moi dans ma banlieue montréalaise, et je suis heureux de reprendre l'activité du micro avec toi, Carl.
Ce qui est le fun, c'est qu'on est tous les deux quand même assez loin, puis grâce à la magnifique technologie que les satellites, puis surtout que le web offre aujourd'hui, tu es capable d'être dans ton sous-sol, dans ta taverne à Montréal, puis je suis dans la mienne ici en Beauce.
Exactement, puis c'est grâce à Bell et à Vidéotron et à toutes ces compagnies-là qu'on aime quelquefois accrocher du revers de la main, que tout ça est possible. Alors, on va les remercier d'entrée de jeu avant de peut-être les critiquer un peu plus tard.
Exactement, puis le trip qu'on aura dans les prochaines semaines sur dans les coulisses, dans la taverne qu'on appelle, c'est un trip pour jaser de hockey. C'est le fun de s'asseoir. Puis, les petites conversations qu'on a quand on va faire un tour, des fois au bar le soir, dans une cage au sport, dans un Boston Pizza, on s'assoit avec le paquet d'ailes piquantes puis la petite grosse boisson à côté. Puis là, on jase de hockey, puis on en raconte des patentes.
Il y a bien des choses qui se passent, puis c'est un peu le principe de l'émission ce matin. Là, il y en a qui vont dire « Coudon, ça a l'air décousu ». Non, c'est une discussion de taverne et c'est loin d'être décousu. On a un beau plan, mais ça nous tente pas d'être très, très, très formel. Puis de toute façon, il y a plusieurs personnes qui font ça, ce type d'entrevue ou ce type de reportage là, ultra formel. Ne tombons pas dans les opinions ou allons-y d'opinions qui plaisent à tout le monde pour pas déranger. C'est pas le genre de la taverne. Il y a toujours quelqu'un dans une taverne qui va dire quelque chose d'un peu déraillant ou d'un peu sorti du champ gauche. Alors, c'est un peu le principe de notre émission. Voilà, l'introduction est faite.
Parlant de sujets dont les gens jasent pas ben, parce que là, il y a un gros move qui se fait dans le domaine des médias. Surtout, il y en a beaucoup au Canada avec les droits de la Ligue nationale de hockey qui ont été accordés à Rogers il y a de ça quelques semaines, quelques jours. Et au Québec, il y a un gros sujet de conversation, mais qui est peu jasé parce que les gens qui sont impliqués n'en parlent pas vraiment. RDS, qui est en train de perdre, je dirais, sa business aux mains de TVA Sports, parce que tout va switcher là-bas bientôt. Puis tout, les matchs, c'est pas encore réglé le dossier des matchs nationaux, mais si jamais ça arrive, RDS est en danger, là.
Ouais, moi, tu sais, depuis la seconde où TVA Sports a été créé, la gang de TVA Sports, la gang de Québécois, a approché plusieurs chroniqueurs, intervenants, analystes, commentateurs qui travaillaient à RDS. Au début, on les a approchés. C'est sûr que le nerf de la guerre dans ce genre d'approche-là ou dans ce genre de dossier-là, c'est l'argent. Et au début, ce qu'on me dit, c'est qu'on était quand même agressif, mais pas beaucoup. Tu sais, la station était en démarrage. Il y avait beaucoup de coûts pour partir la station. Alors, c'est sûr qu'on a approché des gens. On a surtout, et là, c'est pas pour être chien, je veux pas nommer personne, mais on a surtout approché des gens qui avaient pas de gros rôle à RDS, ou des gens qui avaient été un peu tassés par RDS, et on s'est monté une équipe à TVA Sports, donc la guerre commençait, ce n'était qu'un début, et là, depuis que la station a grossi, tu sais, au début, on parlait de cotes d'écoute minables, on va se dire les vraies choses, maintenant, TVA Sports, il n'y a pas de stats officiels, mais on parle du tiers à peu près des abonnés de RDS, et ça, juste avec des matchs de sénateurs. Donc, on s'entend que dès l'année prochaine, avec les matchs canadiens, nationaux, et les matchs en série, et tous les matchs à l'NH, c'est sûr qu'on va, je dirais, c'est sûr et certain qu'on va égaliser le nombre d'abonnés de RDS. Mais là, revenir au fait que présentement, c'est agressif, c'est très agressif. L'été dernier, Renaud Lavoie, après avoir été approché pendant 2 ans, après avoir eu des offres de plus en plus intéressantes, a décidé de faire le switch et il est parti à TVA Sports. Avant lui, ça avait été Régent Tremblay qui était parti de la presse, pas de RDS, mais de la presse. François Gagnon a fait le même move pour aller à RDS. Et là, boum, ça sort cette semaine. Michel Bergeron quitte RDS et s'en va à TVA Sports. Ben, j'en dis TVA Sports, ça peut être TVA aussi, parce que quand tu signes avec l'Empire, tu t'en vas au journal, TVA, TVA Sports, LCN, etc. C'est très, très, très intéressant ce dossier-là à suivre présentement.
De ce que je vois, Michel Bergeron n'est pas le meilleur analyste ou commentateur. Sauf que ce gars-là a une couleur, ce gars-là a une histoire derrière lui. Donc, pour TVA Sports, c'est un des premiers moves qu'on fait pour montrer que, regardez, on en a été d'en chercher un, il y en a un autre qui s'en vient, et de plus en plus, puis au courant de l'été, je pense qu'on va en voir encore plus, parce que ceux qui sont à RDS depuis des années, eux autres, ils savent ce qui s'en vient. Si RDS n'est pas capable, comme on disait tantôt, de garder des droits sur les matchs des Canadiens et on les perd, C'est terminé, là. RDS ne pourra pas présenter du curling pendant des journées complètes avec un RDS 2, avec un RDS Info. Donc, ces gars-là qui sont des fans de hockey, puis on se cachera pas que eux, là, la plupart des journalistes qui sont du côté d'RDS, c'est des gars qui parlent de hockey. Tu le vois, quand il y a des grosses émissions à TVA qui parlent La Voix ou Star Academy, ces gars-là sur Twitter font des commentaires là-dessus au lieu de regarder d'autres sports comme le football ou d'autres matchs de hockey dans la Ligue nationale. Là. Tu vois un peu que ces gars-là sont des fans du Canadien en premier puis du hockey après. Fait que si ouais, eux, demain matin...
Je me souviens, j'ai vu Renault faire ce genre de tweet
ben oui,
durant l'entrée de saison puis même en début de saison. T'as 100% raison. On va sur le site d'RDS, regarde, là, tape sur Google RDS expert, là, tu tombes sur la liste d'experts. Au moins un expert sur deux est là pour le hockey. C'est un ancien joueur, c'est un journaliste qui suivait ça. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Présentement, bon, on sait que Michel Bergeron a fait le switch. C'est sûr que Michel Bergeron, c'est pas les meilleures analyses. Le vendredi, il va dire que Price a été pourri, puis le samedi soir, Price avait été tellement bon la veille, mais son équipe n'était pas là. Ça reste Michel Bergeron, mais ça reste un gars qui attire les codes d'écoute. Mm-hmm. Et on l'a dit, le nerf de la guerre dans ce combat médiatique-là, ce sont les codes d'écoute. C'est l'argent qui rentre, l'argent de pub. C'est pour ça qu'on offre de meilleurs salaires d'un côté que de l'autre, de la clôture. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font le switch. Parce qu'en bout de ligne, c'est une question de salaire. Puis ça m'amène vraiment là, juste à faire la philosophie 101, un peu comme Ken sur le site, une fois de temps en temps. Je peux pas voir Régent Tremblay et je peux pas voir Michel Bergeron critiquer un joueur qui quittera son équipe pour aller avec une autre équipe pour plus d'argent. C'est impossible. Tu sais, on prend un exemple très, très, très simple. Andrei Markov. Markov n'a pas signé encore. Il a congédié son agent. Ce qu'il veut, c'est de l'argent. Le prochain contrat, il veut rester à Montréal s'il y a l'argent au bout du bâton, si la carotte est grosse et si la carotte est la plus grosse. S'il sent qu'il va avoir plus d'argent ailleurs, il va aller ailleurs. Ben, ces gars-là qu'on a nommés tantôt qui viennent de faire le switch pour l'argent à TVA Sport ne pourront pas le critiquer. Et ils le savent, et je suis certain qu'ils le feront pas. Bon, je suis certain qu'ils le feront pas. C'est jamais, là, Michel Bergeron a peut-être la mémoire courte, mais c'est de genre de décision en tant que journaliste, commentateur, etc., que tu peux pas faire et ensuite critiquer un joueur de faire la même décision sur la glace.
Ça va être intéressant à surveiller, puis ça va être de regarder à quel point les abonnements vont changer. Ceux qui n'étaient pas abonnés à TVA Sport, je pense que quand la nouvelle est sortie, il y en a une couple qui ont été chercher des abonnements. Puis au cours de l'été, bien, il y en a qui vont faire un switch. Aime ou aime pas. J'ai vu des gens critiquer ce qui se faisait à RDS, entre autres les matchs de hockey. Je suis pas un grand fan de Pierre Roud, loin de là, puis encore moins de Marc Denis. Je trouve que c'est pas naturel, c'est du fake, on essaie d'être... On veut trop mettre l'accent sur ce qu'on va dire côté « ça sonne bien », côté francophone, côté français, mais on oublie qu'il manque de la couleur, il manque des tripeux de hockey à RDS, puis je suis pas sûr que quand on va avoir des matchs du côté de TVA Sport, quand on va nous présenter avec, c'est quoi, c'est Rainfray qui fait les matchs là-bas, je suis pas certain du résultat que ça va donner, moi.
Écoute, ça m'amène, tu sais, juste avant que tu parles, tu sais, t'as amené un excellent sujet, et ça me ramène exactement à ce que j'avais dans la tête, là, je pense qu'on... On se rejoint là-dessus à 100%. On est allé chercher des gens qui attirent des codes d'écoute. On est là, sont de moins en moins actuels ou de moins en moins bons. Moi, me faire parler de Dale Hunter, chacun a l'histoire. C'est un peu où je veux en venir. TVA Sport, RDS, présentement, on est dans une philosophie d'aller recruter des gros noms, des plus vieux, mais qui ont un fanbase, des codes d'écoute qui existent déjà et qui peuvent dire un peu n'importe quoi, ça sort bien. Je dis pas qu'ils disent tous n'importe quoi, mais tu comprends mon point.
Oui, oui.
On va encore faire un lien avec l'équipe de hockey. C'est là que je vais en venir. T'as les équipes de hockey qui vont chercher des UFA. T'as les Panthers là, qui font ça en ce moment, aller chercher Scott Gomez, aller chercher Tim Thomas. C'est des beaux petits noms qui existent. C'est pas nécessairement des vedettes, mais c'est des noms établis, des vieux qui patinent moins vite, qui ont déjà patiné, qui sont pas dans leurs meilleures années, mais qui sont connus. On espère que ça va attirer du monde dans l'aréna. Et boum, ça ne marche pas. Ça n'attire pas des gens dans l'aréna et ça n'amène pas nécessairement des victoires. Il y a une belle petite séquence pour les Panthers. Mais dans le monde médiatique, aller chercher toutes ces personnes-là connues, c'est bon à très, 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 très court terme. Mais si les réseaux veulent survivre, et là, c'est mon opinion à moi, devront mieux recruter, mieux repêcher et développer des journalistes et des commentateurs et des panélistes. Au lieu de, tu sais, moi, là, depuis hier, si tu savais combien de gens m'ont banni sur Twitter, j'ai des gens à TVA Sport qui m'ont banni, j'ai des gens à RDS, j'ai l'antichambre qui m'a banni parce que j'ai sorti la nouvelle sur Michel Bergeron qui changeait de côté.
Ben voyons.
Au lieu de bannir, là, je parle de moi, mais c'est pas de moi, je parle de toute la jeunesse, tous les jeunes journalistes qui sortent, tous les gars qui connaissent leur hockey, mais qui ont pas 55 ans. Au lieu de les regarder de haut, de les tasser du revers de la main, d'envoyer la poussière en dessous du lit, la poussière va ressortir un moment donné, puis elle va être encore plus grande, plus nombreuse, plus forte. peut-être qu'on devrait penser à recruter justement des gens de la nouvelle génération. Il y en a partout, là. Il y a des journalistes qui terminent à chaque année à Jonquière. Il y a des gens qui finissent leur école de radio. Il y a des joueurs qui n'ont pas de grande carrière. Il n'y a pas des joueurs analystes qu'on connaît. Il y a des joueurs qui ont de quoi à dire. On les invite jamais. Ouais. Moi, je pense justement que cette stratégie-là d'engager des gros noms, un jour ou l'autre, devra être chevauchée ou remplacée, etc., par une stratégie de développer les jeunes journalistes, commentateurs, etc.
OK, à TVA Sport, by the way, un beau move avec José Théodore. C'est du sarcasme, OK? C'est du sarcasme. Hey, parlant de télé et tout ça, on a parlé de droit de télé tantôt, puis revenons un peu sur la Ligue nationale de hockey et tout ce qui s'est passé dernièrement. Avec l'entente qu'on a fait, on a encore une fois montré à quel point les coups, ça n'arrêtera pas, là. Tout a explosé. Ça veut dire qu'on en a entendu parler pas mal cette semaine. On parle de plus en plus d'expansion. Là, les équipes qui allaient plus ou moins bien, il y a eu des nouveaux propriétaires, on est en train de peaufiner les choses. Et là, tout augmente partout, puis on se dit, OK, là, il va y avoir des expansions. Il y avait Bob McKenzie qui disait un peu plus tôt, je pense que s'il y a des expansions, Seattle et Vegas sont beaucoup mieux placés que la ville de Québec. Mais là, regarde ça aller, là. Les enchères vont augmenter tantôt et le prix pour une nouvelle franchise dans la NHL, ça va être incroyable. Puis ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Il y a plein de gens qui sont prêts, qui veulent bâtir des amphithéâtres ou sont en train d'en construire et ils attendent juste ça, une équipe.
McKenzie, si ma mémoire est bonne, là, je l'ai vu passer, je sais exactement de quoi tu parles. McKenzie a repris un article écrit par quelqu'un et là, je me souviens pas c'est qui, ma mémoire me fait défaut parfois, surtout le matin avant le café. Mais c'est une personne qui a parlé à une ou deux sources à la LNH et ça s'arrête là. Donc, son processus journalistique, okay, sa crédibilité, sa solidité de l'info, elle tient d'une ou deux personnes de la LNH. Donc, ça sort de la LNH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que probablement l'info est sortie de façon à aider ou à aider la LNH. T'sais, on a sorti l'info comme on voulait la sortir. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? T'en parles enchère sur enchère. On vient un peu de froisser ceux qui n'ont pas été nommés à Markham, à Hamilton, à Kansas n'a pas été nommé, Québec n'a pas été nommé. Donc, on vient d'en froisser certains. C'est sûr qu'il y a eu un ou deux coups de téléphone après. On me disait, ouais, non, oublie-moi pas, je suis là. Puis, tu sais, Bettman puis Daly nous disent que le processus n'est pas officiellement enclenché. Il l'est enclenché. On sait très bien qui veut une équipe où, qui a une aréna, qui est rendu où dans son processus de construction d'aréna. Tu sais, faut en prendre et en laisser que cette nouvelle-là. Mais il y a un point important. Il faut comprendre une chose. Le contrat, les contrats nationaux, là, les 12 ans, parce que c'est pas un an, 12 ans, à Rogers, qui a été payé des milliards, il est signé. C'est fait. Donc, que Québec se rajoute, que Hamilton, Toronto se rajoute, ce montant-là global ne changera pas pendant 12 ans. C'est sûr qu'on va faire plus d'argent que les matchs régionaux, là, mais pour les matchs nationaux, là, la grosse argent, ça ne changera pas. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour les guichets à Québec, c'est sûr que c'est intéressant pour le merch, les items promotionnels, mais on fera pas nécessairement une fortune en plus avec la télé, alors que si tu t'installes à Seattle, qui est une des grandes villes des États-Unis, pas trop loin de Vancouver pour une rivalité là-bas, ben là, tu vas faire plus d'argent avec la télé. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est que ça me surprendrait qu'on ait deux équipes canadiennes puis aucune américaine.
Ah non.
On veut développer dans le sol américain et surtout, on veut développer parce qu'on peut additionner nos revenus de télé, tandis qu'ici, on vient de remplir, on vient de manger la tarte au complet. Alors, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que Québec a aucune chance? Pas du tout, mais pas du tout. Simplement, elle va devoir enchérir et surenchérir. Puis ce même article-là parlait que Québec devrait peut-être attendre les Panthers de la Floride au lieu de regarder une expansion. C'est possible. Il peut encore avoir des déménagements, des relocalisations. Il faut faire attention. Maintenant, les propriétaires sont responsables de leur franchise ad vitam aeternam ou presque, même si elles font des pertes. Donc, il n'y aura plus de Coyote 2.0 là où la Ligue était poignée pour éponger quelque chose. C'est aux propriétaires de régler ça. Donc, en tout cas, c'est pas pour demain, la veille, que les Nordiques renaîtront, mais dans un an et demi, c'est fort possible. Puis, on va suivre ça de près. Il va y avoir des infos contradictoires à gauche, à droite, qui vont entrer, qui vont sortir. Mais cet article-là n'est pas supposé enlever de l'espoir chez les fans des Nordiques.
Une chose est sûre, c'est qu'à Québec, puis je te l'ai déjà mentionné dans nos anciennes collaborations, le problème, c'est que les gens de Québec ont mis tous leurs efforts et mettent tout leur espoir dans un seul et unique propriétaire qui est Pierre-Carl Péladeau. Donc, on a fermé la porte à d'autres personnes qui auraient pu acheter ou mettre des sous dans ça en créant des ententes avec l'amphithéâtre. Donc, on dirait qu'on a compliqué un peu le dossier en faisant ça.
Ouais, mais Jusqu'à temps que TVA Sport, que TVA Québécois s'associe à Rogers, il était déjà avec Sportsnet, là, mais je veux dire, que s'associe pour le gros contrat national, on recommençait à se demander, c'est quoi la relation entre PKP et Bettman? C'est quoi qui se passe? Mm-hmm. Là, Gary Bettman a même souhaité ses sympathies à la famille Pelado pour le décès de la sœur de Pierre-Carl. On voit qu'il y a une belle relation, mais il y a un tunnel. Si la relation s'envenime, ben on n'a pas d'option B ou on en a très peu. Deuxième chose, ce serait intéressant de savoir qui sont les partenaires de Pierre-Carl Pelado là-dedans. Il n'achètera pas une équipe à lui tout seul. Il y a de l'argent, là, mais il ne sera pas 100% propriétaire. Ça va ressembler un peu à un schéma comme il y a à Montréal avec Molson, FTQ, Bell, etc. Ça va être intéressant de savoir qui va être derrière ça. Et moi, l'année passée, je parlais avec des gens très, 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 très au courant de cette situation-là, mais pas chez Québécois. Et on me répétait toujours, tant que Bell est dans le portrait, Bell fera tout pour bloquer Québécois. Bell fera tout, Bell fera tout. Et là, tu vois, Bell a perdu les droits nationaux. Donc, Bell a beau tout faire, on a la confirmation présentement, qu'en bout de ligne, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si une compagnie a de l'argent à donner à Bettman et à ses associés, elle ne sera pas rejetée du revers de la main, tout simplement parce que Bell essaie de la bloquer. Bell s'est fait bloquer elle-même dans le dossier de la télé. Donc, on oublie ça. En bout de ligne, c'est ceux qui auront de l'argent et ceux, surtout, qui agiront comme de vrais professionnels et non pas comme Jim Barzilli. Et Pierre-Carl Pelado est en train de très bien agir. Il a déjà la confiance de plusieurs gouverneurs, propriétaires à travers la LNH. C'est sûr que le portrait est beau, le dessin est beau. Est-ce qu'il faut créer victoire? Non. Mais le portrait d'ensemble est très positif.
Parlons de nos amis du Canadien de Montréal. Il y a des certains noms qui font jaser pas mal ces temps-ci. Un certain Daniel Brière. Il arrive quoi avec Danny Brière? Il y a des, on commence à avoir des critiques pas mal. Je lisais un peu sur Dans les coulisses que les gars racontaient cette semaine et tout ça. Daniel Brière, c'est un joueur qui est talentueux, mais ça a été le choix numéro B, peut-être même le choix numéro C du Canadien de Montréal cet été.
Il a du talent. C'est un choix qui est un peu illogique. Est-ce que signer Daniel Brière était une erreur? Je ne crois pas. J'ai pas la science infuse, la vérité absolue, mais je ne crois pas. L'erreur aurait été de ne pas lui faire de place dans l'alignement. On savait très bien que le Canadien devait se grossir. Michael Ryder est parti. Puis quand je parle de grossir avec talent. Là. Ouais, on ne remplace pas du talent par de la grosseur, on remplace du petit talent par du grand talent, that's all, comme dirait Guylaine Gagnon. alors, tu sais, on regarde Daniel Brière, on lui fait signer un contrat, et on lui libère pas d'espace. La seule place libérée, c'était celle de Ryder, mais remplacer Ryder par Brière, tu rapetisses ton équipe au lieu de la grossir, tu rapetisses ton top 9 ou ton top 6 au lieu de le grossir. Et tu fais jouer un gars à l'aile droite, un gars qui a toujours joué au centre. Tu regardes ça, en partant, ça semblait l'échec. Deuxièmement, il y a eu plusieurs rumeurs et elles se sont confirmées avec le temps. Le Canadien a essayé d'échanger David Dernais cet été, ça n'a pas fonctionné, ça aurait créé un spot de petit attaquant. Plusieurs autres personnes, moi j'ai pas eu de confirmation là-dessus, mais plusieurs personnes de confiance ont publié qu'on a essayé d'échanger Brian Gionta, ça n'a pas marché. Donc là, tu amènes un petit attaquant, t'en libères aucun autre petit, ouais. Tu remplaces Ryder par Brière, le fit est mauvais à la base. Stéphane Leroux a sorti une stat, 5 joueurs du Canadien de 5 pieds 9, et c'est pas normal. Si c'était un gage de succès que d'avoir de petits attaquants, le Canadien ne serait pas la seule équipe à avoir plein de petits attaquants. À quelque part, il y a un problème là, et tant que ce problème-là ne sera pas réglé, on aura des hauts et des bas et une équipe inconstante à Montréal.
J'ai l'impression aussi que, bon, de son côté, Daniel Brière donne pas, tu sais, il donne pas le petit plus à son entraîneur pour qu'il fasse jouer, mais en même temps, j'ai l'impression que Michel Therrien n'exploite pas ou est pas capable de dealer avec puis de l'essayer un peu plus, de faire un peu plus confiance. Ces jours-ci, il y a des changements incroyables du côté de Montréal. On est toujours en train de faire des moves de trio puis on dirait qu'on sait plus où placer nos éléments. C'est bon de faire du changement quand ça va pas, mais à un moment donné, il y a une limite à ça, faut arrêter, sinon ça devient un peu un genre de cirque avec Michel Therrien.
Ouais, puis je suis 100% d'accord avec toi, mais d'un autre côté, que veux-tu qu'il fasse? Sur papier, au centre, il n'y a pas de place, il faudrait qu'il en tasse un, et lui a décidé, ça je suis pas d'accord, mais lui a décidé de ne pas tasser des harnais, de garder des harnais Pacioretty sur son premier trio, sur sa première vague d'avantages numériques. C'est une bonne décision, c'en est une mauvaise? Pour l'instant, les gars ont recommencé à produire, ils lui donnent des victoires, donc on peut pas vraiment le critiquer là-dessus, mais sachant qu'il a pris cette décision-là, après ça, il n'y a plus de place, Daniel Brière. On regarde depuis 7 matchs. Le gars a toujours fini à zéro ou dans les moins au niveau du différentiel. Le gars a pas obtenu un seul point. Le gars a pas patiné plus que 15 minutes dans un match lors de 6 de ces 7 matchs-là. Donc, Daniel Brière s'en va où? Au début, j'étais sûr qu'il voyait Brière comme une victime. J'ai beaucoup défendu Daniel Brière. Je me suis demandé pourquoi lui, pourquoi les autres ont le droit à autant de chance. Les deux derniers matchs, là, j'ai regardé vraiment Daniel Brière. Puis ça, vous regarderez là.
L'attitude, hein?
L'attitude et l'explosion, la fougue, la détermination, il en a pas. Il essaie de contourner le défenseur entre la bande et le défenseur. Il l'a fait à peu près 4 fois lors du dernier match. Et il essaie, pas du dernier match, il a joué 4 minutes 27, l'autre match avant, contre les Panthers. Il essaie de contourner le défenseur entre la bande. Il essaie d'être rapide. Il n'a plus cette rapidité-là. Il n'a plus cette envie de guerrier-là. Quand le jeu se referme, quand le défenseur se rapproche de lui et de la bande et que ça sent vraiment le squeeze, ben, il ralentit au lieu de donner le dernier coup de patin qui lui donnerait l'occasion de surpasser ce défenseur-là. C'est un petit exemple qui en dit beaucoup sur Daniel. Où est-il rendu dans son processus? Est-ce qu'il croit encore en lui? Est-ce qu'il est vraiment au bout du rouleau? Je ne sais pas. Est-ce que jouer avec deux gros attaquants, des grands et gros, là, on jase? Est-ce que Brière au centre de Rick Nash puis Max Pacioretty, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait mieux? Oui. Tu sais, c'est quoi sa place? Beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il a vraiment demandé à être échangé? Moi, quelqu'un qui m'a dit oui, quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, m'a dit, il y a eu un meeting avec Bergevin, un peu le même genre de meeting qu'il avait eu avec Pacioretty. Puis la question était, est-ce que tu veux rester à Montréal? Pacioretty avait répondu, I don't know, je ne sais pas. Depuis, le Pacioretty, ça semble s'être rétabli, même s'il y a des trucs qui m'agacent encore dans son non-verbal. Daniel Brière, probablement, en tout cas, ça ressemble, là, je veux pas trop m'avancer, mais ça ressemble à un, dans ses conditions actuelles, je veux pas rester. Si ça change, je veux rester. Est-ce que ça va changer? On va le voir. Mais là, il va y avoir le trade freeze, là, pas le droit de transaction du 19 au 27 décembre. Alors, ça risque d'aller après les fêtes, s'il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce qu'entre-temps, on va trouver une place? Il y a comme un mauvais travail qui a été fait en haut, puis Michel Therrien est pris à jongler avec des quilles, il est brisé, puis c'est lui des fois qui a l'air un peu nounou.
Un mélange de plein de choses où on n'a pas su peut-être le placer où il fallait à temps, puis lui en même temps, ben, tu vois son attitude, comme tu disais tantôt, a changé. Regarde juste sa face durant l'entraînement, juste durant les matchs, ce gars-là n'est pas là, puis quand un gars n'est pas là, puis il n'est pas concentré à 100%, puis il ne donne pas l'effort, ben lui non plus ne donne pas de chance à son entraîneur de l'utiliser un peu plus. Hey, en terminant, ça va vite, là, la première va passer quand même assez rapidement de notre taverne. Paros puis Bouillon. Je veux finir avec ça.
Ouais, exact. George Paros, il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour sa santé. Là. Il va très bien en passant. Pas de mal de tête, pas de symptômes post-commotion. Il n'est pas sur la route avec l'équipe présentement. Beaucoup de questionnements. Et ça, est-ce qu'on devrait refaire jouer George Paros pour le Canadien de Montréal d'ici la fin de la saison? Le gars termine son contrat en juin. Donc, c'est sa dernière saison, dernière année de contrat. Je vois pas comment une équipe pourrait lui donner un autre contrat. Le gars n'intimide plus. Au lieu de booster les gars, là, quand Paros se bat, ben les gars ont peur qu'ils se blessent. Puis quand ils se blessent, ben les gars ont peur après. Les gars se sentent mal. Ils veulent savoir comment il va. Donc, est-ce que George Paros remplit vraiment sa mission? J'étais sûr qu'il a plus de 6 à venue. Je l'avais pas vu beaucoup depuis ces années où il faisait la loi dans l'Ouest. George Paros a vieilli. George Paros aurait besoin de travailler quelques techniques de combat. Mais il est vieux pour le faire. Ça me surprendrait qu'il retourne travailler ça. Donc, gros questionnement sur George Paros. Et là, je veux amener un peu de positif. Francis Bouillon, présentement, a laissé de côté plus souvent qu'autrement. Il n'aime pas ça, sincèrement. Il déteste ça. Il n'est pas content, mais il ferme sa gueule. Il dit rien. Il n'a même pas demandé un meeting avec Michel Therrien. Il sourit à tout le monde dans le vestiaire. Il y a du monde dans l'entour de lui qui dit « Oh non, tu peux pas rien dire. » Puis Bouillon aurait dit « L'équipe avant l'individu. » Je suis qui, moi, pour dire haut et fort que je mérite plus de temps que si, ça, ça. Et Bouillon, quand il a signé, on lui a dit, tu vas sûrement être numéro 6, numéro 7, jouer des matchs sur le banc pour développer les jeunes. Et là, il voit qu'il joue des matchs sur le banc pour le gros Murray. Il aime pas ça. Mais à se souvenir, Bouillon est un vrai gentleman. Ne chiale pas, ne dit rien. S'il y avait plus de Francis Bouillon dans des vestiaires à la nage, on aurait moins de problèmes dans les vestiaires à la nage, justement.
Exactement. Hey, déjà tout pour la première de la taverne. Ça
est-ce que je peux me permettre une petite rébellion?
Vas-y.
Je veux juste envoyer 2-3 trucs avant de terminer. Juste avant qu'on se parle ce matin, Paul Arcand à 98.5 a donné le scoop à Ron Fournier. Hier, j'ai eu plein... Le scoop de Michel Bergeron, là, je parle du coq à l'âne, mais je reviens. Hier, sur Twitter, il y a plusieurs gens qui nous ont félicités et j'étais très content. Mais il y en a d'autres là qui nous comparaient à Gabrois, des gens qui cherchent l'attention à tout prix, des gens qui feraient n'importe quoi pour faire parler d'eux, qui chialent contre tout le monde. Tu sais... Faut en prendre puis en laisser. Si vous compreniez comment c'est dur de travailler un scoop, comment c'est dur de travailler une info, comment c'est dur de décider d'aller au bat avec une info quand personne d'autre l'a, Quand ça se produit, on aime bien ça que les gens le réalisent. C'est un peu notre paye parce que c'est une genre de récompense implicite qui vient avec le travail, puis on est très content quand ça se passe. Puis avant de terminer, petit dossier à regarder, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute. Surveillez RDS ce qui se passe. RDS veut copier TSN et ESPN. ESPN, dans le football, a voulu demeurer la référence, mm-hmm. même s'ils n'ont pas beaucoup de matchs, avec les avant-matchs et les après-matchs. Et c'est vraiment la stratégie d'RDS présentement. C'est la stratégie de TSN aussi. Même si on n'a pas beaucoup de matchs, TSN, ça fonctionne. Tous les gars ont re-signé de nouveaux contrats. Ils vont rester là. RDS, est-ce que les gars vont tous partir? Ou est-ce qu'il y en a qui vont rester? Moi, je me suis fait dire François Gagnon devrait rester. Je me suis fait dire Félix Séguin pourrait quitter pour avoir un rôle important à TVA Sports. Je me suis fait dire Chantal Maccabé est très, très, très voulue par TVA Sports. Et on revient à la charge. Elle dit non et on revient et on revient et on revient un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour la faire quitter?
Oui.
Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Rien sur Gaston Therrien puis Benoît Brunet, mon Carl K, tu peux respirer, il devrait rester RDS. Même chose pour le Doc Guimond, Stéphane Langdo, le Baron, Stéphane Leroux, c'est des gars qui devraient rester RDS.
Pour l'instant, mais tu regarderas la journée où Brunet traverse à TVA Sports. Il va rester RDS, il va fermer avec RDS, OK? Il va couler avec le bateau.
Quand il sera joueur autonome, on se demandera si on l'invitera dans une émission ici.
Yes, on est embarqué dans ça, dans la taverne. Donc, venez rejoindre la taverne s'il y a des collaborateurs, des annonceurs, des gens qui sont intéressés à embarquer avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir dans notre taverne. On a encore bien des places, on a encore bien de la bière puis bien du popcorn pour vous autres. À une prochaine!